L'éducation nationale a mis sur pied des comités valeurs de la République au niveau académique, au niveau national, et même il y a un conseil des sages pour consultation. Vous êtes au niveau académique. Quel est votre rôle ?
C'est en 2017 qu'on a été mis en place et on est en lien avec une équipe nationale d'abord, qui effectivement est en lien elle-même avec le Conseil des sages. Et notre travail, il est double. D'abord de répondre aux atteintes aux valeurs de la République dans les établissements scolaires du premier et du second degré, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une atteinte, il y a un signalement. Et donc on est chargé d'intervenir sur cette atteinte. Donc on va rencontrer les familles, on va conseiller sur la suite à donner, on va rencontrer les élèves, les familles, et on va reprendre avec la direction de l'établissement cette atteinte pour ne pas la laisser passer. On va aussi les répertorier, les faire remonter statistiquement au ministère. Et ensuite, notre second rôle, c'est de faire de la prévention et de la formation. Donc on forme tous les personnels de l'académie. C'est un grand déploiement qui va encore être amplifié l'année prochaine avec le plan du ministère. Et on fait de la formation, on va rencontrer des familles, des élèves, des professionnels pour les former aux valeurs de la République.
On revient sur le premier rôle. Est-ce qu'il y a d'abord beaucoup de signalements, beaucoup de problématiques dans l'académie ?
Des problèmes, il y en a. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas. Ils ne sont pas très nombreux. On est à environ 80 signalements par an. Donc vous voyez que ce n'est pas la majeure partie des faits qui nous sont remontés, qui sont principalement des faits de violence. Nous, on est sur une centaine, entre 50 et 100 faits qui nous remontent. Il y a des faits qui ne nous remontent pas, soit parce qu'ils sont gérés très simplement en interne parce que nos professionnels sont formés, soit parce que certains ne veulent pas forcément en parler parce qu'ils pensent que c'est un épiphénomène ou que, pourquoi pas, ils ne souhaitent pas en parler. Mais nous, on est sur une centaine d'interventions dans les établissements. Parfois, il nous suffit de conseiller au téléphone. Parfois, il nous suffit de nous déplacer très simplement, de voir les personnes. Mais voilà, tous les faits sont gérés et aboutissent à une résolution dans le dialogue.
Admettons que vous fassiez une intervention en début d'année scolaire. Vous traitez le problème. Est-ce que vous revenez au printemps, l'année d'après ?
Je vous dis, on peut venir à la demande ou sur un incident. En général, quand on gère un incident avec une famille suite à une contestation d'enseignement, par exemple un refus de parler d'éducation affective sexuelle, une fois qu'on a revu la famille, qu'on a expliqué la différence entre leurs croyances et le champ des connaissances de l'école, et qu'en général, quasiment à chaque fois, ça se termine par une compréhension des familles sur notre démarche, on ne revient pas. En général, je n'ai pas de mémoire, le souvenir d'être revenu gérer la même famille.
Ça veut dire aussi que peut-être que justement la solution a été donnée et que tout va bien. Pour le deuxième rôle, est-ce que cette formation se fait à l'initiative d'un professeur, d'un personnel de l'éducation nationale, ou bien est-ce que vous en prenez l'initiative ?
Il y a dans le parcours de formation proposé par le rectorat un catalogue de formations qui sont souvent à destination des professeurs qui peuvent s'y inscrire à titre individuel. Il y a aussi beaucoup de demandes d'établissement. Et puis souvent, on vient dans l'établissement en fait à l'issue d'un fait. C'est-à-dire qu'on intervient auprès du chef d'établissement ou du directeur d'école. Et comme il voit que finalement, ce genre d'incident peut intervenir de nouveau, ils nous disent « mais pourquoi ne pas revenir à un autre moment nous former ?» pour que la prochaine fois, nous n'ayons pas besoin de vous faire intervenir, vous. Donc en fait, ça se fait souvent par l'opportunité, en fait. Ils ne sont pas toujours au courant, avant l'incident, qu'une équipe existe. Et c'est en découvrant l'incident et en se retrouvant démunis qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des ressources et nous font venir pour les former, tout simplement, à gérer et puis à travailler avec les élèves aussi, parce que ce sont des thèmes passionnants, philosophiques, mais juridiques aussi, à aborder avec les enfants. Donc ça les passionne, et puis c'est quelque chose de collectif. Il faut que l'ensemble des professeurs s'en saisissent, et pas seulement les professeurs d'histoire-géographie et de philosophie. C'est vraiment quelque chose qui doit être collectif.
Dernière question. Vous n'avez jamais eu besoin de remonter jusqu'au Conseil des sages? Il n'y a jamais eu d'événement assez important qui poserait trop de questions?
Dans ce domaine-là, il y a toujours des faits un peu nouveaux, des choses que l'on fait faire remonter à l'équipe nationale. Après, le Conseil des sages, pas spécialement. Ils répertorient avec l'équipe nationale les points de détail, mais ils ont fait un travail extrêmement abouti qui se traduit par un vade-mecum avec des fiches extrêmement bien faites qui répondent en fait en gros à l'ensemble des situations. Après, il y a des situations, je vous dis, qui sont toujours entre le juridique strict et puis la philosophie en fait de la laïcité. Hein. Et donc, on est toujours des fois dans des entre-deux où il faut faire preuve de compréhension, de discussion, où on ne peut pas toujours appliquer le droit. Vous savez, dire toujours est-ce qu'on a le droit, pas le droit, est-ce qu'on a le droit de faire des caricatures ou pas le droit, est-ce que c'est bien de le faire et comment le faire. En fait, c'est toujours des thèmes extrêmement complexes où il faut faire preuve de nuance, de finesse, de compétence, d'écoute, de dialogue. Et pour l'instant, je pense que les équipes mises en place répondent tout à fait aux problèmes qu'on peut rencontrer localement.
Toute dernière question, la laïcité, c'est un droit, ça vient de la loi de 1905. Vous parlez de philosophie, d'interprétation. Est-ce que c'est pas possible quand même de parler simplement d'un droit ?
C'est un droit, c'est un devoir aussi. C'est-à-dire que quand on ne doit pas manifester de signes religieux, c'est une obligation, ce n'est pas qu'un droit. C'est à la fois le droit de croire et de ne pas croire, mais c'est aussi un devoir de respecter des zones de neutralité, la neutralité des fonctionnaires. Donc c'est un ensemble des deux. C'est un principe juridique d'abord, mais en plus d'un principe juridique, il y a une certaine idée de philosophie derrière. La philosophie, c'est celle de la fraternité, c'est celle du vivre ensemble. C'est de ne pas commencer par rencontrer quelqu'un en affichant une religion, mais de rester dans une idée de nuance, de neutralité, même si elle n'est pas obligatoire pour certains. On essaie aussi d'expliquer le mode de vie à la française. On essaie d'expliquer que nous, on préfère se désarmer avant de rentrer dans un saloon quand les Américains, eux, préfèrent être armés, et que c'est une façon de vivre aussi et de réfléchir. C'est un principe constitutionnel d'abord. Hein. La République, elle est laïque, mais elle est aussi indivisible, par exemple. C'est-à-dire que on essaye d'expliquer la philosophie autour de ce principe de laïcité et de ne pas se contenter uniquement de droit ou de devoir. Hein, parce que le juridique, vous savez, il est là, on l'appelle souvent quand le bon sens a quitté les lieux. Et je pense que c'est d'abord une question de vivre ensemble et d'esprit de fraternité qu'il faut défendre dans l'éducation en tout cas.